Bon, moi, je suis disponible pour vos questions. Donc, vous avez vu que la capsule que la dernière capsule enregistrée, c'était une capsule qui faisait le pont entre l'histoire et puis nous, quoi, hein, c'est-à-dire le triomphe des éthiques de la conscience et qui, à l'insu d'elles-mêmes, de plein gré, sont issues de la tradition chrétienne, mais ne le savent plus ou ne veulent plus l'assumer, enfin, sont extraites de la tradition judéo-chrétienne, et qui maintenant dominent dans tous les domaines de l'économie à la vie quotidienne, en passant par la bioéthique, l'écologie, tout, hein. Je citais tout à l'heure le nom de la principale, qui est celle qui est de très loin dominante, qui s'appelle le conséquentialisme, qui est une éthique qui privilégie le choix moral, pardon, le choix moral en fonction des conséquences de l'action. C'est-à-dire, je me décide en fonction des conséquences évaluées de mon action. Si j'arrive à, pour moi ou pour un groupe, à maximaliser les conséquences positives de l'action, je décide en conscience de poser ce choix. Je donnais l'exemple qui me paraît tout à fait d'actualité, malheureusement, du plan de déconfinement du gouvernement. Il s'agit effectivement de maximaliser pour le groupe, pour la nation, les conséquences, le plus grand nombre de conséquences positives d'un déconfinement de la population, c'est-à-dire et sur le plan de la santé et sur le plan de la relance de l'économie. Donc c'est un plan qui répond à ce type d'éthique, hein. On évalue. Alors,
Mais on fait
les
pas toujours
éthiques.
comme ça. Enfin,
Pardon?
je veux dire, quand on a des, je veux dire, une gestion de groupe à faire, c'est quand même majoritairement la façon de faire, non? Enfin, moi,
Oui.
quand vous disiez les différents types d'éthique, alors je suis professeur et je suis professeur principal, et il y a effectivement, quand on se positionne par rapport à un groupe dont on a la responsabilité, ben, on pense aux conséquences.
Oui, mais ça,
Enfin,
on a l'habitude.
voilà, je veux dire, c'est une façon qui est assez naturelle,
Habituel.
quoi.
Très habituel. Mais ce que j'essayais, dans le groupe de ce matin, ce que j'essayais de faire apparaître, c'est qu'il y a des sujets où l'Église catholique, dans ses prescriptions normatives, on va dire, hein, interdit l'éthique conséquentialiste. C'est-à-dire, bon, pour une classe, c'est bien, mais on ne peut pas appliquer l'éthique conséquentialiste sur la bioéthique, par exemple. Hein? On ne peut pas évaluer le vivant en début de vie ou en fin de vie avec une éthique conséquentialiste. C'est-à-dire, par exemple, bon, excusez-moi, je vais prendre un exemple pas très drôle, mais bon. Dans le cas de l'obstination déraisonnable, hein, ce qu'on appelait avant l'acharnement thérapeutique, on sait très bien que les médecins prennent. Bon, on a des cas célèbres, malheureusement, en France, Vincent Lambert, etc. Enfin, des cas qu'on a vus il y a encore l'an dernier, mais il y a quelques années aussi à Berck, toutes ces affaires-là, les médecins, de façon collégiale, puisque l'éthique en médecine, ce principe se décide en principe, de façon collégiale, quand on a le temps, c'est le problème, c'est tout le problème, ont décidé que la vie de cette personne n'est que les conséquences d'un arrêt des traitements, là il s'agissait d'un arrêt des traitements, était supérieur au fait d'une obstination, à l'obstination déraisonnable sur un patient qui était même plus possi relationnel, enfin qui ne répondait plus à aucun signaux de vie, si ce n'est des signaux réflexes. Donc les médecins ont estimé qu'on pouvait arrêter les traitements, hein, puisqu'il n'y avait plus, d'après eux, d'après d'ailleurs plusieurs collèges de médecins, il n'y avait plus d'espoir d'une vie, plus d'espoir de guérison. Mais la famille a estimé le contraire, à savoir qu'il y avait au contraire vraiment des signaux de vie qui répondaient à sa famille, à sa mère, quand sa mère s'approchait de lui et l'appelait, etc. Il y a déjà plusieurs années, puisque ce patient avait fait plusieurs hôpitaux, évidemment, personne ne voulait le prendre, aucun médecin ne voulait plus le prendre en soins palliatifs parce qu'il craignait les procès par la famille. Mais il y a quelques années, le cardinal Barbarin avait dit, par exemple, il n'y a aucune raison d'arrêter les traitements de Vincent Lambert. De Vincent, son prénom, hein, je sais.
Oui.
Vincent. Donc, il n'y avait pas de raison d'arrêter les traitements de Vincent. Bon. Et puis, d'autres évêques, notamment Monseigneur Dornelas, avait dit à l'époque, on ne peut pas parler d'euthanasie, c'est qu'il n'y a plus d'espoir de guérison, donc il faut le laisser mourir, enfin, laisser la vie s'achever telle qu'elle s'achève là. Et voilà. Vous voyez, donc là, mais par exemple, si le cardinal Barbarin s'était opposé à ça, c'est parce qu'il considérait que finalement, et la famille d'ailleurs, enfin la famille s'est déchirée, mais la maman, par exemple, considérait que la vie, tout simplement, la vie était sacrée. La vie était naturellement sacrée. Et le caractère sacré de la vie, donc l'objet, la vie est naturellement sacrée, empêchait toute forme de... voyez. Et donc, on ne pouvait pas pratiquer là une éthique conséquentialiste, ni même une éthique de proportion, c'est-à-dire la proportion, c'est que certes, on le maintient en vie. Hein, il n'était pas du tout intubé d'ailleurs, qu'on a beaucoup dit qu'il était intubé, c'était pas ça. Certes, on le maintient en vie, mais de l'autre côté, on le maintient en vie, mais cette vie n'en est déjà plus une depuis très longtemps. Bon, donc il y a des sujets, si vous voulez, où effectivement, nous pratiquons l'éthique conséquentialiste ou l'éthique de proportion, proportionnaliste, bien entendu. Et la plupart du temps, on s'en débrouille très bien. Et ça va très bien comme ça. Mais il y a des sujets où c'est quand même très chaud. Et donc les sujets, ça tourne toujours autour du vivant. C'est majoritairement le vivant, si vous voulez. Donc tous les sujets de bioéthique. Et puis quand même, ces théories éthiques que nous manipulons, c'est qu'à de le dire, par exemple pour diriger une classe, pour se décider par rapport à un élève, par rapport au retour en classe avec le plan de M. Blanquer, etc. Enfin, tout ça, on estime qu'on rouvre un établissement parce qu'on a, en proportion, on estime qu'on peut le faire, en proportion et collégialement, ce qu'on appelle une éthique de procédure. La plupart du temps on le fait, on s'en trouve très bien, mais il y a des sujets sur lesquels c'est hautement problématique, et c'est pour les catholiques, et ces sujets-là, en gros, c'est les sujets de bioéthique ou de morale, de morale sexuelle ou familiale.
Et c'est compliqué, hein, ce genre de choses, parce que on a le cas d'une amie dont le père a eu un accident et qui a été dans le coma pendant une durée assez longue. Et en fait, les médecins voulaient débrancher. Et elle a insisté, et elle est venue le voir tous les jours. Et en fait, il est revenu à la conscience. Et non seulement ça, mais il a eu une rééducation qui lui a permis de revivre à peu près normalement. Et ce qui était jugé totalement impossible par les médecins au moment où il était dans le coma. C'était vraiment. Et là, c'était opposé à un groupe de médecins et elle a été très, très heureuse d'avoir insisté à ce point. Parce que ça a quand même donné un supplément de vie à cet homme et un supplément de vie en couple à sa femme, parce qu'il a eu une vie pratiquement normale.
Oui.
Donc c'est très difficile, hein, ce genre de.
Oui. Oui. Oui, c'est très difficile, c'est
Alors bon, en plus, c'est quelqu'un qui était enfin, qui est très croyante. Donc, qui a associé la présence, les gestes, la parole, l'amour à la prière. Et bon, et elle pense que c'est l'ensemble de tout ça qui a permis de revenir.
Pardonnez-moi, est-ce que dans toutes ces considérations éthiques et de morale en général, j'ai deux interrogations, j'espère que je vais être claire parce que ça n'est pas si facilement comme ça dans mon esprit. Finalement, dans tout ce que vous avez dit au cours de vos enregistrements et tout ce qu'on peut lire et puis la vie qu'on peut se forger. Les cas Vincent Lambert, etc., on se dit deux choses. C'est-à-dire que dans la morale, dans la progression de la morale, dans l'évolution de la morale, il y a une dimension anthropologique. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais au fil de l'évolution de l'homme, il y a une impossibilité finalement. De rester, elle est obligée de se colter à la réalité anthropologique, aux évolutions de l'homme. Ça, c'est la première réflexion. Et moi, Vincent Lambert m'a vraiment beaucoup émue parce que, d'abord, j'ai lu des choses et son contraire, mais mon sentiment était que c'était un homme qui était quand même en vie, qui donnait des signes de vie. Et quand je parle d'anthropologie et d'évolution de la morale, je fais le parallèle avec la médecine. C'est-à-dire que la médecine d'aujourd'hui donne des possibilités auxquelles les médecins n'accordent pas l'écho de survie nécessaire. Je ne sais pas si je m'explique correctement. C'est-à-dire qu'on devrait être encore plus optimiste aujourd'hui devant un cas comme Vincent Lambert. En se disant qu'on a des moyens thérapeutiques, au moins de le maintenir jusqu'à sa mort naturelle dans des conditions médicales. Je prends un autre exemple qui est peut-être familier, vous avez peut-être entendu parler. Au Québec, au début du XXe, il y a eu les sextuplés Dionne, une femme qui a donné naissance à une naissance multiple de sept petites filles. Et en fait, techniquement parlant, ça a été un miracle parce que rien n'était fait à l'époque dans les conditions de campagne et d'éloignement de tout centre médical, etc., où elle était, pour maintenir en vie ces extrêmes prématurés. Mais elles ont vécu. Donc je me dis, l'éthique médicale n'a pas l'optimisme de ses moyens. Elle n'a pas suivi. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette évolution humaine que l'éthique ne suit pas. Elle n'est pas aussi optimiste, elle n'est pas aussi donneuse de chance. Elle n'est pas aussi rationnelle que les moyens ne lui en donnent.
Oui, alors peut-être deux éléments de réponse. Le premier, c'est que on ne peut pas réduire la morale à l'anthropologie. Mais ce n'est pas ce que vous dites, hein, ce n'est pas ce que vous faites. Mais la tentation, ce serait de dire la morale, c'est de l'anthropologie bien adaptée, bien comprise, et surtout qui intègre effectivement une meilleure connaissance de la condition humaine. Mais une fois qu'on a dit ça, la morale ne peut pas faire sans l'anthropologie, de même qu'elle ne peut pas faire sans la philosophie, la psychologie, les sciences humaines et sociales en général. Donc ça, c'est évident, et il est probable, l'anthropologie, c'est quand même, en soi, c'est une discipline assez récente, d'ailleurs. Hein, contrairement à la philosophie, enfin, j'ai l'impression que l'anthropologie s'est émancipée, en tout cas, de la philosophie de façon assez récente, mais l'anthropologie est une... Les théologiens vont avoir tendance à dire que c'est une science auxiliaire de la théologie morale, ou bien c'est une science qui se situe, pour être plus précis et plus juste, je pense, en amont de la théologie morale. C'est-à-dire, et c'est là, je pense, peut-être c'est ça que vous vouliez suggérer, je ne sais pas, à savoir, on ne peut pas prendre un choix moral qui méconnaisse l'anthropologie. Alors, sachant elle-même, le problème, si vous voulez, de l'anthropologie, comme de toutes les sciences humaines et sociales, c'est que, effectivement, vous l'avez dit, ce sont des sciences très mouvantes et évolutives. Donc, ça suppose d'avoir une capacité de réfléchir en moraliste ou en éthicien qui ne s'étonne pas que la morale puisse elle-même évoluer, puisque forcément elle est impactée différemment. Si vous voulez, c'est un petit peu comme ce que nous disons en ce moment du Covid-19, c'est-à-dire nos choix par rapport au Covid-19 évoluent en fonction de la connaissance du virus. Bon. D'ailleurs, l'anthropologie fait partie, hein, puisque l'anthropologie nous renseigne par exemple sur la corrélation écologique du virus, qui est une énigme complète. Dans beaucoup de virus, je crois, en particulier dans celui-là, on ne connaît pas la corrélation écologique du virus. De même, l'anthropologie va nous renseigner dans l'évolution de l'épidémie, mais également la prise en charge en termes d'économie de la santé aussi, par exemple, vous voyez, du Covid-19. Et donc, il est évident que ces différentes inclusions qu'apporte l'anthropologie profitent à une réflexion morale sur l'épidémie. Ça, c'est sûr. Alors, évidemment, l'articulation est difficile parce que la morale a une tendance naturelle à se réduire aux normes, à la loi, donc à ce qui ne bouge pas. Alors que l'anthropologie, par nature, si j'ose dire, hein, par nature, c'est une science qui bouge en fonction de ce qu'elle découvre, et donc qui révise ses théories, qui actualise la page, comme on dit, etc. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous, la morale ne peut pas faire sans l'anthropologie, comme elle ne peut pas faire sans la sociologie ou l'ethno-psychiatrie, ni même la psychanalyse, ni même, voilà, ça c'est évident. Hein. C'est évident, moi je dis ça de manière assez évidente, mais... il y a des courants de théologie morale, même d'éthique, hein, tout simplement, qui, l'éthique c'est peut-être plus dur, mais de théologie morale qui se fiche complètement de l'anthropologie. Là, je peux vous dire, c'est pas un sujet. Hein. Mais ça dépend un peu du style des gens, de ce qu'ils aiment travailler, ce qu'ils aiment faire. Mais voilà, vous avez des moralistes qui réfléchissent en fonction de la loi naturelle, puis c'est tout. La loi naturelle pour les questions de morale conjugale, et puis le bien commun pour les questions de vie sociale et de vie économique. Puis ça va bien comme ça, l'affaire est pliée. Mais quand on réfléchit du côté de... Quand on accepte d'écouter en particulier les anthropologues, c'est passionnant et en même temps c'est à haut risque pour la morale, parce qu'elle est obligée de se dire « tiens, ça c'est peut-être plus valable, ou il faut peut-être avancer sur ce point-là, ou etc. » C'est tout à fait exact, oui. Plus généralement, d'ailleurs, ça pose la question de l'articulation entre une théologie morale qui se réduirait à des normes, ce qui est catastrophique, mais c'est un courant, hein. L'éthique normative, ça existe, hein. Le magistère, c'est une éthique normative, principalement. Et puis, une morale qui essaierait d'accueillir en son sein l'apport des sciences humaines et sociales. Ce qui était le courant, d'ailleurs, que j'ai tenté un peu de décrire, c'était le courant beaucoup des théologiens après Vatican II.
Alors moi, je veux bien, dans le prolongement de ce que vous dites là, et par rapport à ce que vous disiez dans votre enregistrement, si le magistère réfléchit essentiellement les choses et pose une éthique normative, ça veut dire que les choses sont très figées. Il n'y a pas tellement de possibilités d'évolution.
Non, bah,
alors, est-ce que c'est pas contradictoire avec déjà une église qui a cherché par Vatican II et de coller à son, en se rendant compte que si on colle pas à son temps, ça ne peut pas fonctionner. Voilà, et qu'on ne véhicule pas correctement non plus finalement le message du Christ. Mais voilà, si le magistère, lui, veut pas changer, enfin, comment est-ce que c'est possible que l'Église cherche à évoluer ou cherche à coller à son temps et que le magistère reste cantonné, enfin, ou reste dans quelque chose de très rigide.
Alors, en fait, la réponse est plus compliquée qu'il n'y paraît. Peut-être un premier élément de réponse consiste à rappeler la place du magistère, tout simplement. Donc, le magistère, c'est l'interprète authentique de... Enfin, c'est la fonction enseignante de l'Église. Voilà, on va dire ça.
La fonction
enseignante de l'Église. La fonction enseignante et régulatrice de l'Église.
Quoi ?
Enseignante et régulatrice. Enseignante et régulatrice. Hein. C'est la fonction... D'ailleurs, c'est ça, un magistère, le mot latin, c'est ça, magister, le maître. Hein, donc, c'est la fonction enseignante, au sens vraiment étymologique. D'ailleurs, le mot est récent dans l'Église. Hein, il est très récent, magistère. Le magistère, d'ailleurs, est exercé par le collège épiscopal, en communion avec le premier d'entre eux, le pape. Bon, donc c'est la fonction régulatrice de la doctrine de la foi, si vous voulez, quelque chose comme ça, on peut dire ça. Donc, vous comprenez bien qu'avec une telle définition, le but du magistère n'est certainement pas de faire des prophéties. C'est un autre rôle dans l'Église. Hein. On ne peut pas demander au magistère de faire ce qui n'est pas dans sa nature, on va dire. Hein. L'Église, elle est décrite souvent par les ecclésiologues comme ayant trois pôles, si vous voulez. Il y a le pôle magistériel que je viens de définir. Il y a le pôle théologique et il y a le peuple de Dieu. Ça fait une espèce de triangle. Alors, c'est une définition, il y en a plein d'autres. Hein, mais le peuple de Dieu, par le baptême, par le sacerdoce baptismal, peut parfaitement avoir une fonction prophétique. Ce n'est pas du tout le sens du magistère. Le magistère n'est pas là pour prophétiser, il est là pour réguler. Donc, c'est une fonction, si vous voulez, qui n'est pas compatible avec un avenir qui change. C'est plutôt, une fonction de régulation. Et les théologiens peuvent avoir une fonction... C'est la théologie, qu'elle soit exercée par des laïcs ou par des clercs, elle a une fonction critique. Elle a une fonction de réflexion critique. Voilà. La fonction de réflexion critique, du coup, elle peut aussi comporter un aspect prophétique, puisque quand on critique, au sens étymologique du terme, on discerne quelque chose. On juge et on discerne d'une situation. Donc, les théologiens peuvent avoir une fonction prophétique. Le tout chrétien, d'ailleurs, au nom de son baptême, a une fonction prophétique. Bon, tout ça, c'est pas du tout le rôle du magistère. Le magistère, il n'est pas là pour prophétiser quoi que ce soit. Il est là pour veiller à la communion de la foi. Donc, c'est à la communion même dans la foi, la communion de tous les baptisés dans la foi. Donc, ce n'est pas du magistère qu'il faut attendre des avancées, on pourrait dire comme ça, ou des progrès, parce que ce n'est pas son rôle. C'est au rôle de tout chrétien qui, d'ailleurs, il n'est pas exclu quand même que des évêques puissent avoir des intuitions prophétiques, hein, mais s'ils le font, c'est parce qu'ils exercent aussi la fonction prophétique. Mais ce n'est pas la fonction magistérielle. La fonction magistérielle, c'est une fonction de régulation, point barre. Donc, peut-être pour éclairer ce deuxième point, enfin, un deuxième élément de réponse, c'est peut-être ça que vous aviez qui vous avait fait émerger votre question, mais le magistère, il y a une espèce d'hypertrophie du magistère, c'est-à-dire, même moi, quand je présente la théologie morale catholique, je la présente en fonction de ce que le magistère régule. Donc j'ai tendance, comme tout théologien catholique d'ailleurs, parce qu'il est catholique, à dire voilà ce que je pense, voilà ce qui se dit, voilà ce qui se vit, mais voilà ce que le magistère régule. C'est-à-dire, si j'étais protestant, je ne serais pas embarrassé avec la fonction du magistère. Hein? Ils ont d'autres façons d'ailleurs de régler leurs affaires, mais il n'y a pas de magistère. Chez les orthodoxes, c'est encore différent. Il y a quasiment, je caricature, mais enfin, il y a un peu un magistère par église, quoi. Magistère, c'est un truc très catholique. Hein. C'est comme la loi naturelle. Et ça veut dire qu'on accepte une espèce de... On obéit, on consent à quelque chose, à une autorité unique de régulation dont le but n'est pas du tout de faire avancer quoi que ce soit. Le but, c'est de réguler. Donc, les avancées, si vous voulez, elles viennent de... par exemple, lorsqu'un pape convoque un concile, bien entendu qu'il y a des définitions magistérielles qui en découlent, puisqu'il faut bien aboutir à des décisions. Mais quand un pape convoque un concile, c'est plutôt une fonction prophétique, là. Hein? Donc, il n'y a pas de problème. On ne peut pas non plus interdire au magistère de temps en temps d'avoir une fonction prophétique, mais quand un pape convoque un concile ou un synode, c'est d'abord une intuition prophétique qui est à l'origine, mais cela aboutit à des décisions régulées valables pour l'ensemble des catholiques. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué ça, mais c'était peut-être une illustration aussi qui permettra de répondre à votre question. Regardez les synodes diocésains. Les synodes diocésains, c'était un grand truc après Vatican II. Donc, dès que les évêques s'ennuient dans les diocèses, si j'ose dire, ils convoquent un synode diocésain. Et puis, ça fait causer pendant plusieurs années. En général, les synodes diocésains mobilisent beaucoup de travail, beaucoup de gens qui s'investissent longtemps. Et s'ils le font, c'est parce qu'ils pensent que ça va changer l'Église locale. C'est-à-dire qu'on fait des assemblées, on aborde tous les points de la vie diocésaine, ce qui pourrait être amélioré, changé, bougé. Et puis arrive le jour où l'évêque, qui est donc dans sa fonction magistérielle, l'évêque, on lui propose des textes, et l'évêque est censé signer les textes. Ben, je peux vous dire qu'il ne signe pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il ne signera que ce qui est conforme à la régulation de la foi. Donc, qui ne dépend pas strictement de lui, mais qui dépend de la communion avec l'ensemble des églises, en communion elle-même avec Rome. Je dis ça parce que les synodes diocésains sont souvent portés par des intuitions prophétiques. En général, les catholiques sont très contents de s'y investir. Et puis souvent, les catholiques qui se sont investis dans la préparation et dans la, le, tout le travail d'un synode pendant des années, sont déçus de ce qui, des conclusions. Parce que les conclusions sont souvent en retrait par rapport à ce qu'on voulait faire bouger. Et la fonction magistérielle, c'est ça. Je ne vais pas dire que c'est l'épée de Damoclès, ce serait vraiment, ce serait vache, ce serait injuste. Hein. Mais voilà, c'est la fonction de régulation de la foi, et elle a cette particularité dans l'Église catholique qu'elle est très unique. Il y a une autorité unique quand même. Hein. Et c'est les orthodoxes, tout dépend du patriarcat, tout dépend de l'Église à laquelle vous appartenez. Ça peut changer quand même pas mal des choses hein, chez les orthodoxes. Les décisions peuvent être prises de façon quand même assez différenciée. Pas tellement chez les catholiques. Chez les catholiques, même les églises, si vous voulez, de rite oriental, par exemple, qui sont issues des premières églises apostoliques, au final acceptent l'autorité de Rome. À peu près sur tous les... Enfin oui, sur tous les sujets de la foi et des mœurs. Mais on leur accorde un rite liturgique différent, mais ils sont en communion avec Rome.
Mais du coup, ça sonne, là, ce que vous dites à l'instant, ça sonne comme si le magistère, ça bloquait les évolutions, en fait.
Ben, ça peut. Regardez, j'ai donné l'exemple d'Humanevitae, tout le monde s'attendait à une évolution sur Humanevitae. C'est-à-dire, voilà. Alors, il y a une histoire qui est en train d'être un peu révisée, mais si je vous la fais courte et peut-être un peu caricaturale, Paul VI avait convoqué une commission d'experts sur la question de la contraception chimique. Et puis, cette commission a rendu un avis positif. Et donc, ça avait un peu fuité. Donc, on se disait, super, l'Église va... Le pape Paul VI, surtout que c'était le pape du Concile, donc il était auréolé d'un certain prophétisme. Donc, c'est super, ça va, on va avancer, on va bouger. Eh oui, mais non. Le pape n'en a pas décidé comme ça. Il a effectivement... Donc, ça a donné l'impression à beaucoup de gens, à beaucoup de catholiques, à beaucoup de femmes en particulier, que l'Église bloquait. Et il y a beaucoup de... Ça a été un séisme, hein, en 68, ça a été un véritable séisme. On a eu ça avec l'ordination des femmes, c'était Jean-Paul II. Alors là, par contre, les avis positifs n'abondaient pas. Hein. Mais pour Humanevitae, pour Humanevitae, tout le monde s'y attendait, quoi. Eh ben non, pas du tout. J'ai pas tellement d'exemples que le magistère ait suivi une intuition novatrice. Le seul exemple récent, mais il est de taille. Il est de taille, même si il a été minimisé par certains. C'est lorsque le pape François a ouvert, sous des conditions très strictes, la communion eucharistique aux divorcés remariés. Vous avez vu le bazar que ça a fait. On a même dit que ça allait faire un schisme. Finalement, ça ne l'a pas fait. Pas encore, enfin, je pense qu'elle ne va pas le faire, ça l'aurait déjà fait probablement, mais là la doctrine a carrément bougé là-dessus. C'est très rare. On a cru que ça allait le faire aussi sur l'ordination d'hommes mariés après le synode sur l'Amazonie, et ça, là on ne sait pas pourquoi le pape ne l'a pas fait. D'ailleurs, personne ne sait pourquoi le pape ne l'a pas fait. Parce que les pères avaient voté à 75% en faveur de l'ordination d'hommes mariés, et le pape n'a pas voulu. On ne sait pas pourquoi. Là encore, on s'y attendait. Enfin, pour les divorcés mariés, on ne s'y attendait pas forcément. Hein. Donc, il a autorisé ça sous des conditions extrêmement rigoureuses, mais enfin, il l'a autorisé. Et maintenant, ceux qui disent le contraire, c'est parce qu'ils ne lisent pas les textes du magistère. Mais c'est dans les textes. Bon. Dans le texte, d'ailleurs. Donc, on se pensait qu'il allait le faire aussi pour l'ordination d'hommes mariés, il ne l'a pas fait. Et du coup, les pères synodaux sont rentrés d'Amazonie, sont rentrés chez eux, et plusieurs ont dit, y compris dans les médias, on ne sait pas comment on va parler de ce texte à nos communautés, parce que en allant à Rome, on était persuadé que ça allait être accepté, et on revient de Rome, ça n'a pas été accepté. Donc, comment on va en parler? On ne sait pas. Ah, ça, c'est très dur, hein, parce que la fonction magistérielle, c'est probablement la fonction qui met à rude épreuve le plus, hein, l'obéissance.
Mais du coup, ça donne l'impression, quand vous en parlez, que du coup, le magistère, il est là pour assurer un minimum commun, solide, intangible, quoi.
Oui, c'est ça. Oui, on peut dire comme ça, bien sûr, oui.
Mais donc, du coup, toujours intangible.
Alors,
on va faire comment, en fait?
Ça va pas être possible. Je l'ai dit aussi une fois, il faut pas mettre sur le même plan la foi et les mœurs. C'est-à-dire que le magistère, c'est d'abord la confession du Dieu un et trine, si vous voulez. La doctrine, elle a été élaborée dans les premiers siècles de l'Église, les grands conciles écuméniques, et elle porte, on la confesse dans le credo, hein, surtout le credo de Nicée-Constantinople, et donc cette doctrine est intangible, en effet, parce qu'elle est intangible, tout simplement, c'est-à-dire qu'elle exprime avec vérité les relations entre le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Ça, je ne suis pas prophète, mais jusqu'à ce que disparaisse la figure de ce monde, aucun pape ne remettra en cause la doctrine trinitaire. Bien. Pour la morale, c'est, vous voyez, c'est, on ne peut pas mettre la contraception chimique sur le même plan que la doctrine trinitaire. Vous voyez, ou alors on aplatit les choses complètement. Enfin, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, les gens, le peuple de Dieu a souvent est souvent légitime, hein, à se dire. Enfin, c'est la question de Guillemette tout à l'heure. Après tout, l'anthropologie a bougé. Du coup, la doctrine morale pourrait bouger aussi, parce que c'est pas la même chose que la doctrine des grands conciles. Alors, le verrou, j'utilisais cet après-midi ou ce matin l'expression du verrou de Bercy, vous savez, pour le budget. Bon, eh bien, il y a un verrou de Bercy également dans la théologie morale. Hein. Le verrou de Bercy de la théologie morale, c'est la nature. C'est l'argument de la nature. Donc, lorsque vous invoquez la loi naturelle, toute tentative de... Vous avez dit bouger. Bon, toute tentative de réforme ou d'évolution se fracasse contre le mur de la loi naturelle. Ça, c'est le verrou. Si vous faites sauter le verrou, alors on va faire des choses horribles, n'est-ce pas? Par exemple, il y avait une question ce matin, c'était la question sur le mariage pour tous. Donc, la question de mariage pour tous, l'Église catholique n'en veut pas. Parce que c'est contraire à la nature, c'est tout. Je dis que c'est tout parce que je ne dis pas que c'est... Attention, dans ces moments-là, je dis toujours, je suis un théologien catholique, donc je vous expose la doctrine catholique. Je ne vais pas d'abord vous dire ce que j'en pense. Il ne faut pas que je confonde mon sentiment ce que je vous enseigne. Parce que ce que je vous enseigne, je dois être fidèle à des contenus. Sinon, mais les moments où c'est des moments de friction comme ça, je suis obligé de vous dire, écoutez, si j'étais théologien protestant, je vous dirais les choses autrement. Mais si, comme théologien catholique, il faut bien que je vous dise que pour le mariage pour tous, l'argument qu'on ne pouvait pas mettre Frigide Barjot et compagnie n'allaient pas vous dire que c'est à cause de la loi naturelle qu'on ne pouvait pas accepter le mariage pour tous. La loi naturelle, ce n'est pas très parlant pour nos citoyens, hein, mes concitoyens. Mais pour l'Église catholique, finalement, l'argument de fond, c'est ça. C'est-à-dire, il est naturel qu'un homme épouse une femme, voilà, et tout simplement parce que, si j'ose dire, la Bible et la tradition ne connaissent pas, il n'y a pas d'exemple, ne connaissent pas les unions maritales de même sexe. Et parce que ce n'est pas naturel. Alors, il y a toute une réflexion là-dessus, je n'entre pas dans le dossier théologique, qui est assez complexe et tout, mais voilà, c'est pour vous dire, vous donner le verrou de Bercy, c'est l'argument, c'est la nature. Hein. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des juristes, mais les juristes comprennent ça très bien parce que les juristes comprennent ça très bien parce que ça leur parle tout de suite à cause du droit naturel. Et donc, le droit naturel, qui est quand même un pilier fondateur d'abord du droit romain et puis du droit civil tel qu'il est aujourd'hui, quand on leur parle de nature, la plupart des juristes, tout de suite, ça s'allume parce que, forcément, le droit naturel, le droit du mariage, encore maintenant, hein, c'est comme ça, c'est un droit romain, c'est hérité du droit romain. Donc, on est, là encore, l'Église n'a pas forcément inventé tout ça, hein, mais elle l'assume. Alors, si j'instruis le dossier maintenant, je l'ai instruit à charge, si je l'instruis à décharge, dans le sens de ce Guillemette suggérait sur l'anthropologie, il est évident que l'anthropologie, l'argument de la nature, ça ne tient pas. Ça ne tient pas du tout. Il y a un célèbre anthropologue français qui s'appelle Maurice Godelier, qui a fait sa thèse il y a très longtemps d'anthropologie sur une tribu, je ne sais plus, latino-américaine, je crois. Godelier, G-O-D-E-L-I-E-R, Maurice.
J'ai pas entendu.
Maurice Godelier. Maurice Godelier dit, il avait fait sa thèse il y a très longtemps sur une tribu, je ne sais plus où, en Amérique latine ou je ne sais plus où, et, dont le principe d'éducation, tenez-vous bien, admettait l'inceste. C'est-à-dire que c'est parmi les rites d'initiation, etc., il y a l'inceste. Ah, c'est pas naturel, l'inceste. Puis on ne va pas le recommander. Mais ça fait partie d'une culture. Etc. Enfin, évidemment, quand on commence à ouvrir la boîte.
Oui, mais du coup, vous regardez que les choses de point de vue européen et biblique, voilà, comme vous dites, c'est pas naturel.
Alors, il y a ça aussi, parce que l'histoire de l'Église est quand même, et en particulier d'ailleurs l'histoire de l'Église récente, parce que les premiers conciles, c'est pas forcément ça, mais est très identifiée au devenir de l'Europe, à la constitution de l'Europe. Et du droit romain, etc. Ça, c'est tout à fait vrai.
Oui, parce que moi, c'est vrai, quand vous avez parlé de la nature naturelle dans l'audio que vous avez enregistré,
ouais.
Le décalogue, alors effectivement, il y a des choses qui sont, on va dire, qui pourraient être communes à toute l'humanité si un homme veut vivre en bonne société avec ses voisins, mais il y a des cultures et il y a des cultures qui sont bien plus anciennes que le christianisme, et dans les Hébreux, il y avait la polygamie quand même qui était.
Oui, alors voilà, ça c'est des arguments.
Je veux dire, être adultère, qu'est-ce que ça veut dire? Alors le gars, il a qu'une seule femme, mais en fait, non.
Vous savez, c'est une plaisanterie. C'est abusé, hein. C'est une plaisanterie dans les cours d'exégèse, mais c'est vrai, si vous regardez la généalogie de Jésus, il n'y a pas grand-chose qui respecte les normes du droit conjugal, enfin, il est très louche, hein, Jésus, hein, dans sa généalogie. Donc, c'est pas top, hein, du point de vue moral. Hein. Donc,
non, mais même c'est au niveau de la question de la loi de ce qu'on définit comme loi naturelle. Vous prenez
la loi naturelle, si vous voulez, les anthropologues justement diraient que c'est la loi symbolique. C'est la loi symbolique, c'est-à-dire que, ou bien les linguistes diraient c'est le langage. Ça passe par le langage. La séparation, c'est pas pour rien d'ailleurs que je parlais de l'inceste. L'inceste, c'est quand il y a la fusion. La loi naturelle, c'est la loi naturelle, quand on l'identifie à la loi symbolique, c'est le fait de se séparer. On se sépare par le langage. Ça, c'est une version. Voilà, je fais un effort pour Guillemette, c'est-à-dire si vous voulez, c'est une approche.
Vous allez détester ma question.
Non, pas du tout, elle est très bonne. Mais ce que j'ai présenté là, si vous voulez, c'est une approche anthropologisante de la loi naturelle, de la loi symbolique. Hein. Sauf que c'est un grand risque de dire ça. Parce que vous comprenez, on dit la loi naturelle, c'est la loi symbolique. Ah oui, c'est bien, parce qu'on écoute les anthropologues. Sauf qu'à un moment donné, il y a toujours un anthropologue qui vous dit, ah ben moi, j'ai étudié une tribu au XVIIe siècle, qui faisait autrement. Alors, qu'est-ce qui reste de la loi naturelle? Parce qu'à partir du moment où vous avez une exception, c'est pas valable pour les autres.
Oui, c'est pour ça que moi je me pose la question.
Très embêtant. Donc on peut se demander même parfois si la loi naturelle n'est pas une construction de l'esprit. C'est-à-dire et que tout simplement la culture nous montre que c'est la culture qui produit l'idée de nature. C'est parce que nous sommes. Donc l'idée de nature est une construction produite par notre ou nos cultures. Et ce qu'on appelle nature, quand on commence à le travailler, on se rend compte que c'est beaucoup plus mouvant que ce dont on a l'impression. Et là-dedans, la mission du magistère, c'est de prendre dans ses griffes, si vous voulez, ce qui ne va pas changer. Parce qu'il faut quand même bien, vous voyez, qu'il y ait une humanité de l'homme. Il faut des choses qui ne bougent pas. Sinon, on n'a pas le droit de l'homme. Si les droits de l'homme ne sont valables qu'en France et pas dans une petite tribu indienne qui est persécutée par un dictateur local, qu'est-ce qu'on fait ? S'il n'y a pas d'essence de l'homme, qu'est-ce que je fais du vieillard vous voyez ce que je veux dire ? Il faut qu'il y ait des éléments stables. Parce que s'il n'y a pas d'éléments stables, c'est ça le truc en fait, s'il n'y a pas d'éléments stables, partageables par tous, ça va être très embêtant. C'est-à-dire que tout est relatif en fonction des cultures. C'est juste pas possible. Alors, la grande difficulté, c'est de définir et de consentir à un universel stable pour tout le monde. C'est un peu ça la loi naturelle. C'est un horizon permanent et plus on s'en rapproche, plus il s'éloigne. Mais la tentative, c'est d'essayer de définir un universel stable pour tous. Ce qu'on trouve actuellement. Ce qu'on essaye de trouver dans les droits de l'homme. Mais vous voyez, même les droits de l'homme sont critiqués. Et d'ailleurs, régulièrement bafoués. Donc, ce n'est pas si universel que ça, même si on en parle. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question ?
Mais les droits de l'homme, c'est aussi une projection de ce que vous voudrez pour l'homme.
Oui, oui, bien sûr. C'est-à-dire que ce sont des idéaux.
Oui, c'est ça.
Oui, ce sont des idéaux.
Au départ, ce sont des idéaux qui sont fondés.
Oui, au départ, parfois à la fin aussi, mais ce sont des idéaux.
Mais au départ, c'est des idéaux, c'est pas forcément la réalité vivable. Moi, j'ai la chance de vivre dans un pays où les droits de l'homme sont respectés, et je suis d'accord que je suis contente.
Oui.
Mais néanmoins,
ce sont des idéaux, oui, bien sûr. Oui. Est-ce qu'il y a une dernière question ? On arrête ?
Une dernière question.
Allez-y.
C'est quand vous avez parlé de. Vous savez, il y avait l'éthique de la conscience autonome.
Oui.
Donc, en fait, c'était un grand défi. Vous avez dit que c'était un grand défi pour nous, les chrétiens, parce qu'on était immergés dans ce monde. Et du coup, moi, l'action que je me suis posée, c'est ça veut dire que le chrétien, il est toujours. Il n'est jamais autonome, quoi. Le chrétien, c'est toujours qu'un... Alors, je fais un raccourci rapide, mais c'est ce que me dit mon petit athéisme dans ma tête. Donc, ça ne va pas. Mais en tant que chrétien, je ne suis pas appelée à réfléchir et à penser...
On est des étourneurs autonomes.
Oh mon Dieu.
Oui, bien sûr. Non, mais
je note. Vas-y, Guillemette, tu répètes.
Nous sommes les chrétiens. Nous sommes des hétéronomes autonomes.
Oui, on peut le dire comme ça, oui. C'est-à-dire qu'il faut... C'est une tension, mais c'est certainement pas une opposition.
Parce que si Jésus-Christ n'était pas arrivé, on serait encore à faire des rituels dans le monde entier. Enfin, dans le monde entier, on ne sait pas comment il aurait évolué avant cette date-là, mais on serait encore en train de faire les rituels de la mikvah tous les jours de notre vie, du matin jusqu'au soir et toute l'année. Voilà.
Oui.
Donc...
on est d'accord.
Hétéronome, et puis on nous a fait avancer vers un peu d'autonomie. Et le monde aussi.
Oui.
Pardon.
C'est ce qui fait que la suite du Christ n'est pas un suivisme. Ou que l'obéissance n'est pas une servitude. C'est d'abord une écoute, oui. C'est d'abord une écoute. L'obéissance, c'est une manière de se libérer des chaînes de la servitude, mais parce que la servitude devient très vite volontaire.
C'est un grand texte, ça, l'éloge de la servitude volontaire.
Oui, la servitude volontaire, c'est un très, très grand texte. C'est un texte très utile, y compris en période d'urgence sanitaire, je vous assure. Très, très grand texte. Bon, on arrête là.
Alors, moi, j'avais un petit merci quand même, parce que j'ai quand même lu les résumés de l'échange entre Benoît XVI et
Habermas. Oui. Oui.
Et j'ai un deuxième merci, c'est parce que j'ai lu quand même, comme j'étais très très ignorante, la vie de Saint Alphonse de Ligori.
Ah, c'est bien.
C'est un type bien.
Et alors, je vais vous dire, allez vite faire ça, pas pour vous endormir, parce que ça vous endormira pas, ça c'est clair, enfin quoique, sur Wikipédia, mais franchement, il a une vie extraordinaire.
Oui, oui, il a fondé une congrégation, il a une vie trépidante, Alphonse de Ligori, bien sûr.
Voilà. Incroyable, incroyable. Oui. Incroyable.
Ok, c'est pour le prochain confinement. Non, je rigole.
Ah, pour les femmes malheurs.
Voilà, pour l'instant, j'ai trop de travail. Ça va pas être facile.
Bon, eh bien, bon déconfinement pour le moment. Et puis, donc, à la semaine prochaine, n'est-ce pas ?